On m'a remis trois questions. Il nous reste encore un chapitre. Je sais que le temps, il nous reste 3 minutes. Bon, je vais essayer de répondre aux questions et puis je vais vous laisser décider si je termine l'épître ou pas. OK. OK. On a parlé de suppositions au sujet de ce que Paul a fait en Arabie. Y a-t-il des mises en garde contre les extrapolations en lisant la Bible qui peuvent générer des divisions? Oui. Oui. C'est ma réponse, c'est oui. Il y a des mises en garde. C'est-à-dire, je ne sais pas combien d'études bibliques j'ai vu ou j'ai suivi où on perd beaucoup de temps à spéculer, à dire des choses que le texte ne dit pas, à dire des choses qui n'expliquent pas le texte, mais qui vont au-delà vers des choses qu'on ne peut pas connaître. Il y a assez de choses à apprendre dans la parole de Dieu que nous n'avons pas vraiment de temps à perdre à parler sans fin des choses que nous ne pouvons pas connaître. Et parfois, quand on nous pose des questions, c'est nous les enseignants, c'est surtout nous les enseignants peut-être qui commettons cette erreur. Je me rappelle, une fois on m'a posé la question, pourquoi est-ce que certains d'entre nous sont noirs et d'autres sont blancs, et je ne sais pas quelle réponse j'ai donnée, tandis que j'aurais dû dire, Deutéronome 29, verset 29, les choses secrètes appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont à nous pour les mettre en pratique. Donc, il n'y a rien à mettre en pratique quand on pose la question, pourquoi moi je suis blanc et l'autre est noir. Il faut dire parfois, je ne sais pas, mais voilà ce que Dieu nous dit de faire. Faisons-le. Je ne sais pas, mais voilà ce que Dieu a dit qui est vrai. Acceptons cela. Donc, oui, c'est un danger. C'est un danger. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un parce que nous tous, peut-être, on tombe parfois dans cette erreur parce qu'on est curieux. Il y a des choses qu'on aimerait savoir, mais trop souvent, ce n'est pas par notre intelligence que nous allons trouver la réponse. Donc, passons plus de temps à examiner et comprendre ce qui est dit, ce qui est révélé. Quelle place aux 10 commandements? Certains disent qu'ils sont une loi universelle, toujours d'actualité pour nous, surtout en parlant du sabbat. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 6. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avant d'aller plus loin, trop souvent, les gens parlent de la lettre, 2 Corinthiens chapitre 3. On parle de la lettre comme le fait de vouloir suivre à la lettre ce qui est écrit, d'être rigoureux en faisant ce qui est écrit, alors que non, mais c'est l'esprit, c'est l'idée générale qu'il faut adopter, c'est cela qui compte. Ce n'est pas du tout de cela que Paul est en train de parler ici. La lettre, c'est la loi. C'est cette même loi de Moïse dont nous sommes en train de parler depuis. Et l'esprit, c'est l'évangile. Voyons ce qui suit. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, oh, ça vous rappelle quoi? Les 10 commandements, n'est-ce pas? Le ministère de la mort, il évoque toute la loi de Moïse en se référant aux tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? OK, donc vous voyez, le ministère de la mort, gravé avec des lettres, le ministère de l'Esprit, OK, on continue. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, est-ce que vous avez jamais pensé que cela pouvait être un service ou un ministère que de condamner? Et pourtant, c'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui condamnait? C'est la loi qui a tout renfermé sous le péché, comme nous avons lu aujourd'hui en Galates. Donc, c'était glorieux, c'était de Dieu, ça faisait partie de son plan, c'était bon. Mais le ministère de la justice, c'est-à-dire le service ou le ministère qui nous rend justes, est encore plus glorieux. L'autre nous montre notre besoin, mais le deuxième nous satisfait ce besoin. Si le ministère... OK, verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien glorieux. Donc, dans tout cela, qu'est-ce qui est glorieux? C'est la nouvelle alliance, l'Évangile, le ministère de la justice. Qu'est-ce qui était passager? C'est le ministère de la condamnation et de la mort, c'est-à-dire l'ancienne loi, qui nous montrait notre besoin du Seigneur Jésus. Okay? Mais encore, les 10 commandements pour Paul ici, ça évoque l'ancienne alliance, l'ancienne loi. Okay? Ce n'est pas une loi à part. Et c'est cela que les adventistes, etc., qui insistent sur le sabbat, ils disent, c'est que les 10 commandements, c'est la loi morale. Elle est éternelle, elle reste intacte. Le reste, c'est la loi cérémonielle. La Bible elle-même ne fait pas cette distinction. Okay? Et puis Paul ici, quand il veut évoquer ce qui était passager, il parle de ce qui était écrit sur les tables de pierre. Donc les 10 commandements ne sont pas en vigueur. Pourquoi est-ce que nous pouvons tuer, nous pouvons commettre adultère, ainsi de suite? Non, évidemment, c'est parce que tous ces commandements sont repris d'une manière ou d'une autre, quelque part dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. L'exception, c'est le sabbat, qui n'a jamais été commandé aux chrétiens. Okay. Comment concilier ce principe posé par Paul, selon lequel la loi ne peut annuler la promesse du salut par la foi faite antérieurement, avec celui que le Nouveau Testament supplante l'Ancien Testament? Si la loi ne peut annuler ce qui vient avant, pourquoi le Nouveau Testament si? D'abord, le Nouveau Testament n'est pas en train d'annuler la promesse faite à Abraham. C'est dans l'Évangile que cette promesse est accomplie. Elle trouve ce qui a été promis est donné dans cette année. Donc là, il n'y a même pas question d'annuler quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Ancien Testament ou bien l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, pouvait être enlevée? Ben, c'est parce qu'elle était temporaire dès le départ, quand Dieu l'a donnée. C'était pour accomplir un rôle particulier, c'est-à-dire de nous montrer notre besoin, de nous conduire à Christ. En Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, je vois que ceux de Lyon reçoivent la répétition parce qu'il y a des points que je fais que le week-end passé, j'ai donné les mêmes explications parfois. Ça dépend des questions qui se posent ou qui se lèvent. Mais dans ce passage, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » OK. Souvent, on ne se donne pas le temps de vraiment voir la différence entre abolir et accomplir. Et beaucoup de gens supposent que puisque Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir », cela veut dire que la loi reste en vigueur. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait lire l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Hébreux et toujours penser que la loi est en vigueur. Je ne sais pas comment il concilie cette interprétation avec le reste du Nouveau Testament. Presque chaque épître a quelque part au moins des versets qui parlent de cette question et qui disent clairement que la loi n'est plus en vigueur. Mais une illustration qui m'a souvent aidé à faire comprendre les gens, je dis que, bon, si... Bon, j'ai essayé la fois passée avec Angèle, avec Christophe, j'ai eu tous les problèmes, donc aujourd'hui je vais faire avec Angèle. Peut-être ça marche. C'est-à-dire, voilà. Angèle vient me demander de l'argent. Il a besoin de 500 euros. Je dis, bon, d'accord, voilà, je peux te prêter. Non, je te prête les 500. Je vais faire la même chose que la dernière fois. Donc, je lui prête 500 euros. Et puis, je lui fais signer un papier qui dit, « Moi, Angèle, je reconnais devoir la somme de 500 euros à Barry, payable le 1er décembre. » OK. Donc, le 1er décembre, je vais chez Angèle et je lui dis, « Écoute, je t'avais prêté cet argent, est-ce que tu te souviens, tu avais promis rembourser. » Voilà le papier que tu as signé. Et... Et je lui donne le papier, il dit, il regarde, et comme il est en train de faire un peu de barbecue à côté, il prend le papier, puis il le jette dans le feu. Et bon, c'est parti dans la fumée. OK. Il dit, quels 500 euros? Je ne me souviens pas. Bon. Est-ce que je peux me servir de ce papier encore pour réclamer cet argent? Non, il a détruit. Il a aboli. Est-ce qu'il a respecté ce qu'il avait promis? Non. Ce qui était écrit, est-ce qu'il a accompli? Non, pas du tout. Supposons par contre que je vais vers lui, je dis à Angèle, tu te souviens, tu me devais 500 euros. Voilà le papier. Et puis il dit, ah oui, je me souviens bien, je me suis apprêté, voilà l'argent. S'il te plaît, Barry, signe la reconnaissance de dette que j'ai remboursée. La totalité. Donc, je signe, Angèle a tout payé, telle date. Bon, maintenant, est-ce que je peux me servir de ce papier encore pour lui réclamer l'argent? Je ne peux plus parce qu'il a déjà payé, c'est marqué dessus que bon, ça a été fait. Bon, donc, mais dans ce cas, je ne peux plus m'en servir, mais je peux dire que le papier a été respecté. Ce qui a été écrit, ce que Angèle a écrit, il a accompli. Sa promesse de rembourser, c'est fait. Okay. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse dans le sens de tout simplement jeter à la poubelle, là, ça, non, on ne veut plus. Non, il est venu, il a accompli ce qui était écrit. Il a accompli de plusieurs manières. Il a accompli dans le sens où il est la seule personne qui ait jamais obéi parfaitement à tout ce que demandait la loi de Moïse. Okay? Ensuite, il a accompli parce que cette loi, ces Écritures, contenaient beaucoup de prophéties. Et tout au long de l'Évangile, quand vous lisez, il dit « telle chose s'est arrivée afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit » par Ésaïe ou par Jérémie ou par un autre. Okay? Donc, il était en train de tout accomplir. Et quand il est mort sur la croix, la dernière chose qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a accompli. Maintenant, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il était avec les disciples en Luc chapitre 24, il leur dit, « N'est-ce pas ce que je vous disais quand j'étais avec vous ?» qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, il est venu pour accomplir, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que la loi doit rester en vigueur, de la même manière que accomplir ce qui était écrit sur la reconnaissance de dette. ne veut pas dire qu'on doit toujours s'en servir. Il a servi son but maintenant. Donc, il a respecté. Je ne suis pas venu pour abolir dans le sens de ne pas respecter, mais au contraire, de l'accomplir, de faire ce qui a été écrit. Okay? Voilà pourquoi ce n'est pas parallèle que de dire que le Nouveau Testament annule la loi. C'est vrai que la loi n'est plus en vigueur depuis que le Nouveau Testament est là. Mais la loi a servi son rôle, servi son but. C'est dans ce sens-là. OK. Il y avait une autre question qui était un peu plus difficile à répondre brièvement. Quand est-ce qu'il faut absolument reprendre un frère ou une sœur et ne pas accueillir les différentes opinions? Que faut-il à tout prix éviter? Qu'est-ce qui est essentiel? Ça, ce n'est... J'ai un problème déjà avec cette façon de penser. C'est-à-dire, je reconnais que Jésus a dit qu'il y a certains points qui sont plus lourds que d'autres. Quand il parle de la justice et la miséricorde, et j'oublie la troisième chose, et puis il dit aux pharisiens, voilà ce que vous deviez faire sans négliger les autres, c'est-à-dire la dîme de petites choses du jardin. Okay. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont plus fondamentales, plus lourdes que d'autres. Mais du moment où quelque chose fait l'objet de, disons, est traité dans la parole de Dieu, du moment où Dieu a parlé d'un sujet, j'ai très peur de dire, bon, ça c'est pas aussi important. Ça n'a pas d'effet sur le salut de quelqu'un. Qui suis-je pour dire que là où Dieu a parlé, oh, on n'a pas trop besoin d'y obéir ou de corriger quelqu'un qui est en train de dévier. C'est pour ça, moi, Marc, comment est-ce qu'on dit en français « salvation issue » Question de salut. OK. Il y a des gens qui disent « Oh, là, telle chose, ce n'est pas « salvation issue ». Bon, par exemple, pour revenir à quelque chose qui a peut-être touché un nerf, on a parlé d'instruments de musique. Okay. Et je comprends bien des... Oh, merci, d'accord. Je comprends bien cette idée. Moi, je ne suis pas à la place de Dieu pour savoir que ça, c'est quelque chose qui suscite la colère de Dieu, les instruments de musique. Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est simplement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Est-ce que nous allons le faire? Parce que si nous faisons ce que Dieu demande dans sa parole, nous sommes en sécurité, nous savons que c'est un chemin qui est sûr et qui ne peut pas être faux. Mais encore plus, pour moi, la raison pour laquelle on se battrait pour une question d'instrument de musique, c'est parce qu'il y a un principe en jeu que je n'accepte pas de sacrifier. Le principe de l'autorité biblique. Pour ce que nous faisons, nous devons avoir de l'autorité. On a demandé à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus n'a pas dit, non, cette question, elle n'a pas de sens, elle n'est pas importante. Il a retourné la question en disant que, bon, le baptême de Jean-Baptiste, est-ce que c'était du ciel ou des hommes? OK. Bon, comme les gens qui lui avaient posé la question n'étaient pas sincères, ils n'ont pas donné une réponse claire. Il n'a pas aussi répondu à leur question. Mais la question est normale et elle est importante. Par quelle autorité faisons-nous ce que nous faisons? Parce que si les hommes ont droit d'inventer ce qu'ils veulent comme doctrine ou comme pratique, mais rejoignons les catholiques. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous au moins unis dans une même église? Parce que c'est ça le problème. C'est la source du problème, c'est tout simplement l'autorité. Est-ce que les hommes ont droit d'enseigner dans la religion ce que la parole de Dieu ne dit pas? C'est ce que la Bible nous dit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça signifie quelque chose au moins, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, je sais qu'on pourrait dire, mais dire il ne faut pas employer des instruments de musique, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Peut-être que certains pensent comme ça. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, chantons, c'est ce qui est écrit. Si on fait autre chose, c'est qu'on est en train d'aller au-delà. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites explicitement. Beaucoup de choses. C'est la question. Est-ce que nous allons faire ce qui fait partie du modèle du Nouveau Testament ou pas? Nous avons dit qu'il y a un modèle. La Bible dit qu'il y a un modèle à suivre. Est-ce que nous pouvons trouver les choses que les églises autour de nous font dans le modèle? Le problème, c'est que justement, trop souvent, on est en train de prendre notre inspiration de ce qui nous entoure, au lieu de prendre notre inspiration dans ce qui est écrit. Ok, c'est... Oui. Ok. Ok, c'est bien. Justement, comme on pourrait continuer peut-être longtemps, c'est vrai, je vais répondre juste à l'endroit du passage en Apocalypse. Parce que l'Apocalypse est rempli d'images qui viennent de l'adoration de l'Ancien Testament. Il y a l'autel. La mer de mer correspond le bassin des reins. Il y a des encensoirs. Il y a pratiquement tous les objets du culte du temple et du tabernacle qui sont employés dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est rempli d'images. Et nous reconnaissons que ce sont des images, ce ne sont pas des choses que nous devons mettre en pratique. Sinon, on devrait aussi justifier par là l'emploi d'encens, l'autel, ainsi de suite. Sinon, ce qui sera au ciel, c'est une chose. Mais ce qui nous guide, c'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Donc, nous savons comment les premiers chrétiens chantaient. C'est ce que nous pouvons faire avec foi, avec confiance. Ok. J'ai vu une autre main et puis... Non? On laisse? Oui? Ok. Donc, adorer Dieu, louer Dieu, ça peut être avec la voix, en tapant les mains avec les instruments. Ok. Ok. Oui, avec l'instrument. OK. Bon, c'est un peu l'idée qu'on vient de dire. Nous ne sommes, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que sous l'Ancienne Alliance, il y avait certaines pratiques pour adorer Dieu. Parmi ces pratiques, on employait des instruments de musique. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas les mêmes pratiques pour adorer Dieu. Et nous voyons que les chrétiens chantaient. Il n'est jamais dit qu'ils employaient des instruments, bien qu'ils connaissent ces instruments, puisqu'ils étaient employés dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, puisque nous vivons, comme nous avons vu en Galates, nous vivons sous l'Évangile et non pas sous la loi de Moïse, sous l'ancienne loi, nous devons, dans notre adoration, nous laisser guider par l'exemple des chrétiens et les enseignements des apôtres, plutôt que par les commandements de Moïse et les exemples des Israélites sous l'ancienne loi. Sinon, ce n'est pas le lieu qui compte. C'est là que c'est ce qu'on est en train de faire. On peut adorer Dieu dans une maison comme on peut l'adorer dans une chapelle. Mais donc, où que nous soyons, si nous adorons Dieu, nous devrions faire ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu a demandé. OK? Donc, ce n'est pas le fait que ce soit à la maison, mais est-ce que c'est une adoration? OK. OK. Bon. Je ne vais même pas regarder ma montre pour savoir combien j'ai dépassé l'heure, mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui. Oui. Ça, c'était quel verset? C'était, je l'ai un peu sauté, je ne l'ai pas mis dans le... voilà. Je ne peux pas me prononcer pour cette raison. Voilà. Le grec dans ce verset est capable d'être compris de deux manières différentes. Donc, le français, le Darby, la version Darby dit, vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. Par contre, le français courant dit, je vous écris maintenant de ma propre main comme vous le voyez à la grosseur des lettres. Bon, selon la première traduction, Paul insisterait sur l'importance de l'enseignement de cette épître par le fait de consacrer tant d'espace à un seul thème. C'est vrai que l'épître dans son ensemble n'est pas parmi les plus longues, mais le contenu, l'espace qu'il a consacré juste à cette question-là est quand même plus long. En Corinthien, c'est beaucoup plus long, mais il traite plusieurs idées différentes. Je ne dis pas que c'est l'explication ou bien la traduction à préférer. Je dis simplement, voilà une possibilité. Selon la deuxième traduction, Paul suit la coutume d'ajouter quelques mots de sa propre main, ce qui atteste l'authenticité de la lettre. Certains commentateurs attribuent les grosses lettres à l'importance de ce que Paul écrivait à la fin de l'épître et d'autres à un handicap physique de l'apôtre, tel qu'une maladie des yeux, qui est peut-être suggérée, peut-être, comme nous l'avons vu hier, par chapitre 4, verset 15, où il dit que vous seriez arraché les yeux pour me les donner si vous pouviez le faire. Bon, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui vraiment influence notre façon de mener notre vie. C'est un point de curiosité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a ces deux possibilités que les autres ont déterminées. Ouais. Il y avait un autre, soit une question ou une remarque, un commentaire à ajouter, oui. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas dans les détails à quelle pratique ils veulent revenir, mais il y a une distinction qu'il faut peut-être souligner, c'est que Paul ne dit pas ici que si tu es juif et que tu deviens chrétien, que tu dois abandonner tout ce qui était dans la loi de Moïse. Par exemple, je pense que si tu es juif et que tu deviens chrétien, certainement, bon, déjà, les juifs aujourd'hui ne font pas de sacrifice pour les péchés. Mais prenons la Pâque, le repas de la Pâque. Bon, c'était pour rappeler les juifs de ce que Dieu avait fait pour leurs ancêtres quand il les a délivrés de l'Égypte. Si un chrétien juif veut en famille célébrer ce repas et penser à ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé, cette épître n'interdit pas cela. Mais cette épître interdirait d'introduire cela dans l'Église comme une pratique que tous les chrétiens, même les païens, devraient observer. Je pense que si j'étais juif, je voudrais prendre 13 points si je choisis certaines choses dans la loi de conserver. Et surtout, il faut reconnaître que même un chrétien juif n'est pas obligé de suivre des ordonnances quelconques dans la loi de Moïse, et que s'il en suit, ça n'a rien à voir avec son salut. Mais, comme je dis, je ne suis pas bien informé sur quelles pratiques et quelles croyances les juifs messianiques en général aujourd'hui ont tendance. Sinon, comme je l'ai dit hier, on peut dire qu'au 1er siècle, une grande partie de l'Église était composée de juifs messianiques, c'est-à-dire de juifs qui croyaient que Christ était le Messie. Oui. Oui. Et dans les deux cas, c'est une idée erronée, puisque rien dans la Bible ne dit que Jésus mettra pied sur la terre encore. Il viendra, nous irons à sa rencontre dans les airs pour être avec lui pour toujours. Nous sommes des citoyens des cieux. Il ne va pas nous obliger à rester ici sur la terre quand Jésus reviendra. Donc, effectivement, cette croyance, que ce soit qu'elle soit tenue par des juifs ou des chrétiens, est erronée. Et l'État d'Israël, je ne considère pas que... Bon, je ne considère pas que l'État d'Israël soit l'accomplissement des promesses de Dieu au peuple juif. Les promesses dont on parle, qui parlent d'être restaurées au pays, avaient été faites avant le retour de la captivité babylonienne. Et ces promesses ont été accomplies en ce moment-là. Sinon, après, dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas qu'il est promis aux Juifs que, voilà, il y aura un État qui sera spécialement pour les Juifs, ou que les Juifs vont... D'ailleurs, une chose qui peut-être peut gêner dans cette idée de Juifs messianiques, c'est que on pourrait avoir tendance à oublier ou minimiser la vérité que Paul a enseignée ici en Galates quand il a dit « Il n'y a plus ni juif ni grec. L'incirconcision, ce n'est rien. » Donc, je veux bien qu'on évangélise les juifs comme on doit évangéliser tout le monde. Mais si on les évangélise et qu'ils sont gagnés à Christ, ils ne devraient pas se voir comme un groupe supérieur au sein de l'Église ou même un groupe distinct à part. On devrait être la même chose en Christ et reconnaître ce que c'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas à cause de cette descendance divine. Ça, c'est quand même important. Oui. 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 Ah, OK. Oui, oui. Oui, non, je pense que Paul était assez clair. Il dit que au chapitre 5, j'emploie un langage très fort, je pense quand il dit « Si vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. » Donc, malgré le fait qu'ils avaient été sauvés en obéissant à l'Évangile, par cette doctrine, ils ont perdu leur salut. Et je pense, comme on a parlé hier de ce verset où il dit qu'il faut qu'il être retanché, ceux qui mettent le trouble, je ne pense pas que c'était une comme la colombe dit, qu'ils se mutilent eux-mêmes. Non, ce n'est pas la bonne tradition. Qu'ils soient retranchés, c'est-à-dire qu'ils soient séparés de l'Église. Parce qu'ils sont en train de mettre le trouble et de faire perdre des âmes. Donc, oui, ils avaient été sauvés, mais par cette fausse doctrine, ils avaient perdu cette relation avec lui. OK. Merci, bien merci pour les questions. Et pour tout. Que Dieu vous bénisse.